Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série concernant Christ la lumière jusqu'au retour de Christ le Messie. Et aujourd'hui, l'étude numéro 6 sera née pour un temps comme celui-ci. Nous sommes nés, vous et moi, pour un temps comme celui-ci. Voici ce que la Sainte Bible nous dit dans Joël au chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres, c'est comme l'aube qui s'étend sur les montagnes. Un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'après lui, il n'y en aura point jusqu'aux années des générations et des générations. Devant lui, un feu dévore et une flamme brûle après lui. Devant lui, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, la solitude d'un désert, et rien ne lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Ils sautent, c'est comme le bruit des chars sur les sommets de montagne, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Les peuples en sont angoissés, tous les visages pâlissent, ils courent comme des hommes forts. Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre. Ils marchent chacun dans son chemin et ne changent plus leur sentier et ils ne se pressent pas l'un l'autre. Ils marchent chacun dans sa route. Ils se précipitent à travers les traits et ne sont pas blessés. Ils se répandent par la ville, ils courent sur la muraille, ils montent dans les maisons, ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune sont obscurcis, et les étoiles retirent leur splendeur. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant, parce que le jour de l'Éternel est grand et fort, terrible, et qui peut, oui, qui peut le supporter. Selon la Bible de la version Darby, Joël, chapitre 2, verset 1, jusqu'au verset 11. Bien sûr que quand nous lisons ainsi des citations qui ont été écrites quand même des centaines et des centaines, voire des milliers d'années, il est évident que pour nous aujourd'hui, tout cela, il faut demander que l'Esprit Saint nous aide à comprendre le sens de ces paroles. Aussi, je vous demanderai de soigneusement relire chez vous, tranquillement, dans une de vos versions bibliques, Joël chapitre 2, versets 1 à 11. Et ainsi, vous arriverez mieux à comprendre ce que je vais vous transmettre maintenant. Chers amis à l'écoute, Dieu se prépare pour la plus grande de toutes les batailles jamais menées sur cette terre. C'est l'apogée finale et définitive de tous les temps. C'est le grand combat des derniers temps auquel l'homme mortel va prendre part. Et nous sommes nés, vous et moi, pour un temps comme celui-ci. Pour cette guerre, il n'est pas question de recrutement, mais d'une armée de volontaires choisis pour accomplir les œuvres de Dieu déjà prêtes pour chacune de ses vies. Dieu appelle, en effet, il appelle un peuple totalement consacré, entièrement abandonné et livré au Seigneur. Donc, livré au Dieu Tout-Puissant. Même les enfants vont prendre part à cette armée des derniers temps. L'opportunité de servir Dieu dans cette dernière heure va être donnée à chacun de nous. Le rôle et la place que nous occuperons dans cette armée vont être déterminés par ce qui est et ce qui va être dans nos cœurs. Et cela par la manière dont nous allons nous abandonner comme nous allons nous livrer à lui, à Dieu. Les jours des fêtes de l'Éternel sont devant nous. La fête des trompettes, Yom Kippour, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Certains d'entre nous entendent déjà l'appel de la fête des trompettes au plus profond de leur âme, et le Saint-Esprit nous rassemble pour cette dernière bataille. Il met son sceau sur chaque soldat et lui révèle son identité. Ce sera les fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Si vous allez à Qumran en Israël, vous pourrez y voir les grottes où furent trouvés les manuscrits de la Mer Morte, ainsi que les excavations de la communauté des Esséniens. Ceux qui les rédigèrent y vécurent à l'époque de Jean-Baptiste, et même depuis 300 années avant Jésus-Christ. Ces hommes pieux de cette époque-là nous ont légué de glorieuses vérités et révélations ointes par Dieu. Parmi les choses qu'ils ont enseignées, l'une d'entre elles fait état d'un grand combat depuis le début de la création entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Cette bataille qui fait rage depuis des siècles va trouver son apogée dans le combat des derniers jours entre les puissantes forces du bien et du mal. Tous les mortels vont se retrouver au centre de ce conflit. Vous êtes soit du côté du mal, soit du côté du bien. Nous devons tous décider si nous sommes pour Dieu ou contre lui. Dans cette armée des derniers jours, il n'y a pas de place pour les neutres. Celui qui est saint va l'être toujours plus, et celui qui est impur va l'être encore davantage. La prophétie nous annonce la victoire glorieuse, finale et définitive des fils de la lumière sur les puissances et sur les fils des ténèbres. Ces hommes malfaisants qui auront essuyé par l'intermédiaire de démons de contrôler la destinée de ce monde seront finalement et totalement détruits par la gloire de l'apparition du Seigneur. Notez 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Nous serions également détruits si la lumière de Dieu n'était pas déjà en nous. C'est en effet le feu de l'Esprit Saint qui préserva la vie de Shadrach, de Meshach et d'Abednego du feu de la fournaise ardente. Alors que la fournaise de la persécution commence à être chauffée 7 fois plus, nous allons tous, vous et moi, être chauffés 7 fois plus qu'auparavant, mais cette fois-ci par l'Esprit Saint. Car si vous ne pouvez pas recevoir plus de Dieu, vous ne supporterez pas l'éclat de son avènement. Et dans cette éventualité, vous serez détruits par la gloire de Dieu lors du jour final de son apparition. David Wilkerson, qui était connu mondialement, a eu une vision dans laquelle il voyait, entre autres, une récession mondiale provoquée par une confusion économique. La nature dans les douleurs de l'enfantement, de grands tremblements de terre, une famine majeure, des inondations, des tempêtes et des tornades dont la fréquence augmente parfois 2 à 3 à la fois, des grêlons gros comme des ballons de football. Il y aura des morts et des dégâts pour des milliards. Un déluge de saleté avec un baptême d'impureté. Des films X pour adultes et enfants à la télévision. L'acceptation de l'homosexualité dans des églises disant que c'est un don de Dieu, ce qui est un véritable blasphème. La rébellion dans la famille, une folie de persécution contre les chrétiens véritablement remplis de l'Esprit Saint et qui aiment Jésus-Christ. Un réveil spirituel dans certains pays tels que la Russie et en Chine. Il y aura de plus en plus des pasteurs homosexuels des deux sexes qui reçoivent l'ordination et qui sont présentés comme une nouvelle race de pionniers. Par la suite, le pasteur Wilkerson dit « Dieu me montra et j'ai vu comme un grand écran de télévision devant moi. Et j'ai vu avec des scènes qui changeaient constamment. J'ai eu, en fait, une vision des derniers temps relative à nos nations occidentales. Voici la vision des temps de la fin. Premièrement, je voyais des pièces de monnaie empilées et des billets. Ces pièces étaient rapidement marquées d'un signe étrange. Un sceau était apposé sur chacune d'elles, les marquant de manière indélébile. Le Seigneur me montra que notre argent était estampillé d'un mauvais sceau et qu'une malédiction descendait sur le système monétaire mondial. Deuxièmement, je voyais nos journaux de la presse quotidienne. Ils n'avaient plus que 4 pages au lieu de toutes nos pages actuelles. Il ne s'y trouvait quasiment aucune publicité. Tout sera sur les systèmes électroniques. Troisièmement, j'ai vu nos grandes usines fermées avec les machines inactives à l'arrêt. Des hommes en haillons se présentaient à la grille d'entrée et suppliaient pour avoir du travail. Je les entendais dire « Nous sommes prêts à travailler pour avoir seulement du pain et de la nourriture. S'il vous plaît, donnez-nous à manger. Nous ferons n'importe quoi en échange de nourriture. » Quatrièmement, je voyais les responsables gouvernementaux remplis de désarroi qui secouaient leur tête sans aucune solution pour résoudre les problèmes. Le désespoir remplissait le cœur de tous ces hommes haut placés. Cinquièmement, j'ai vu une grande salle de classe dans l'un des instituts éminents du système éducatif. La salle était froide, donc aucun chauffage, avec très peu d'étudiants en classe. Ils étaient emmitouflés dans de chauds manteaux d'hiver, avec des écharpes, et tentaient d'acquérir une éducation. Il n'y avait aucun chauffage dans tout l'hiver. Mais la plupart des classes étaient vides. Les étudiants avaient été congédiés pour une durée indéterminée. Sixièmement, j'ai vu un grand laboratoire. La table de travail était constituée à la fois d'émail blanc brillant et d'acier. Derrière le long comptoir, où aurait dû se trouver une 20aine de techniciens, il n'y en avait que 2 ou 3. Les étagères étaient quasiment vides à cause d'une grande pénurie de produits chimiques. Ces techniciens portaient de longues blouses blanches immaculées par-dessus leurs vêtements. Septièmement, j'ai vu les autoroutes. Elles avaient changé totalement. Il n'y avait plus ce flot indéterminable d'automobiles. Un système de transport totalement différent entre voitures et avions. Tout à fait autre chose était donc en fonction. Je voyais le prix de l'essence monter sans cesse, la rendant extrêmement rare. Huitièmement, dans les maisons, j'ai vu des pénuries d'électricité ainsi que le rationnement de l'eau à certaines heures du jour. De plus, l'eau qui s'écoulait des robinets était le plus souvent impropre à la consommation, voire même dangereuse, tout juste pour faire la lessive, et encore. Neuvièmement, Puis j'ai vu un grand immeuble, la base des 5 ou 6 premiers étages, qui représentait environ un quart de l'ensemble de la structure, était moyennement solidement bâti, mais le reste de l'immeuble était de très mauvaise qualité, fait avec du matériel de construction bon marché. Les plans de l'architecte n'avaient absolument pas été respectés et l'ensemble était défectueux et dangereux. J'ai vu alors un tremblement de terre ou quelque force gigantesque qui secouait et ébranlait les bâtiments et toute la partie supérieure défectueuse se brisait, tombait en s'éparpillant, laissant uniquement intacte et en place la base, et parfois même pas cela. Puis j'entendis une voix s'écrier « Réjouissez-vous quand vous verrez la partie supérieure s'effondrer, car je me débarrasse de la corruption. » Je savais que cette structure représentait les nations. Il faut interpréter et demander à l'Esprit-Saint de nous révéler les mystères. Nous allons voir les gouvernements tels que nous les connaissions s'effondrer, mais le fondement demeurera tout juste. Dixièmement, le Seigneur me montra autre chose. La nuit qui précéda la mort des premiers-nés en Égypte, les anges prêts à accomplir le jugement attendaient sans pouvoir accomplir leur mission tant que le sceau de l'agneau immolé n'était pas sur les portes de chaque croyant. C'est uniquement après l'immolation du dernier agneau, quand le dernier voyageur fut prêt à partir, que le jugement a pu commencer dans le pays. Dieu attend que le dernier cœur soit scellé par le sang de Jésus-Christ. C'est seulement quand la dernière personne sera revêtue, prête à partir, que l'évacuation pourra commencer. Onzièmement, j'ai encore vu l'évacuation en masse des grandes villes. Dieu me montra qu'aucune voix humaine n'était nécessaire pour dire aux gens de fuir les villes. Une petite voix intérieure leur suffisait. J'ai vu de longues années de graves problèmes, d'épreuves et de tribulations. Les choses m'ont duré bien plus longtemps que les gens ne l'ont imaginé. Douzièmement, j'ai vu de grandes organisations religieuses tomber en poussière. Il y aura un système religieux, une sorte de mélange de toutes les églises, de toutes les tendances religieuses, tel que le monde n'aura jamais connu. Treizièmement, les hommes rechercheront la vérité sans se satisfaire des paroles humaines. Ils ne prendront plus pour acquis tout ce qu'on leur aura appris dans le passé. Quatorzièmement, il y aura une grande percée dans le monde psychique et surnaturel. Les hommes découvriront la force et la puissance du mental que certains utilisent déjà actuellement, même dans leur ministère. Il en résultera un réveil de signes et de prodiges dans la fausse église, qu'on dira « fait dans le nom de Jésus-Christ. Alors que l'homme découvrira cette force adamique en lui. Quinzièmement, ce qui est beau deviendra plus beau encore, et ce qui est vil deviendra encore plus vil. Seizièmement, j'ai vu encore une table pleine d'argent et une grande main descendre et balayer tout ce qui s'y trouvait, la nettoyant d'un seul coup. Dieu semblait me montrer que tout ce qui avait été bâti, édifié et planifié avec une pensée matérialiste prendra totalement fin ce jour-là. Que celui qui est sage lise et comprenne. Et septièmement, j'ai vu que les océans, l'eau était montée par endroits plus de 8 à 10 mètres. Les îles même importantes étaient sous l'eau, rayées de la carte, avec tous leurs humains par millions morts, détruits. Des villes très importantes, submergées par l'eau et détruites par des ouragans et des typhons gigantesques. Des tremblements de terre qui dépasseront de loin de tout ce qu'on a connu actuellement. Les centièmes des centaines de millions de gens qui vivaient des fruits de la mer, tels que les poissons, etc., vont mourir de faim. Ainsi que les oiseaux des mers, car il y aura pratiquement plus de poissons, et le peu qui reste sera impropre à être mangé. Des millions de tonnes de déchets plastiques et autres, voire des déchets dangereux et mortels, aussi bien pour les poissons que pour les humains, et pour toute vie, dans les océans. Il y aura des nouveaux virus et des pandémies où notre science sera totalement impuissante. Plus besoin de s'inquiéter au sujet de la surpopulation. On a découvert une nouvelle sorte de criquet en Afrique du Nord, soit génétiquement modifié, où des mutants, gros comme des rats, 100 millions de ces criquets géants vont pouvoir détruire toute végétation d'un pays comme la petite Suisse en 2 heures. Chers auditeurs, la suite de cette série d'études est prévue pour nous préparer tous spirituellement à pouvoir affronter ces temps en restant vigilants et victorieux. Chers amis, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous méditons dans la prière, nous recevons parfois, pas toujours, seulement quand l'Esprit Saint le veut et que Dieu le permet, quelque chose pour être transmis à ceux qui sont à l'écoute. Voici donc quelque chose qui est pour vous. Demeurez bien calme en la présence du Seigneur. Beaucoup trop souvent, quand surgit une crise, on s'agite, on court de côté et d'autre. Cette agitation est signe de faiblesse. on ferait preuve de force, au contraire, en se recueillant. Quelques initiatives prises calmement, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, vous ferez agir avec à propos, judicieusement, bien mieux et plus efficacement que tous les efforts de ceux qui courent et qui s'agitent. Il s'agit en effet d'être réellement guidé, conduit, maintenu dans le chemin qu'il convient de suivre. Croyez fermement à cette possibilité. C'est très doucement que se fait entendre dans le tumulte de l'existence la voix discrète qui commande aux éléments « Silence, tais-toi ». Mais alors, les vagues de vos tempêtes intérieures obéiront, elles s'apaiseront, un grand calme se fera. Oui, car alors, on commence à discerner la voix douce et ferme qui indique ce qu'il y a lieu de faire. Chers amis, nous allons terminer ensemble avec la prière. On ne peut jamais trop prier la prière que Jésus-Christ nous a transmise dans les évangiles. On peut dire cette prière de plusieurs façons, selon l'inspiration que l'Esprit-Saint nous communique. En voici une proposition de ce genre de prière que Jésus-Christ nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton nom est l'amour, car Dieu est amour. Celui qui aime demeure en Dieu et Dieu en lui. Que ton règne vienne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, ta volonté et non pas la mienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a sauvé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre Père ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Prenons garde au mal qui sort de notre cœur, de notre bouche. Amen. Chers amis, chers auditeurs et auditrices, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette encore assez importante série. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. Au revoir.